Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette deuxième série concernant la démonologie. Cette deuxième série, comme je l'ai dit, est un complément que j'ai reçu dans le cœur de compléter, de donner. Ceci est l'étude numéro 3. Le titre, c'est « L'armure de Dieu ». L'armure de Dieu. Lorsque le dernier sèche-linge s'arrêta, le silence s'abattit comme un manteau dans la laverie automatique. Choice sortit brusquement de ses pensées, surprise par ce silence. Elle était en train de plier son dernier panier de linge et elle leva les yeux et regarda autour d'elle. Et là, elle a vu que elle était la dernière cliente dans la laverie. Elle se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle rassembla rapidement ses derniers vêtements et les jeta dans le panier sans même les plier. Avant même qu'elle ait terminé, elle entendit la porte du fond s'ouvrir. Elle jeta un coup d'œil et son sang se glaça. Juste devant la porte se tenaient deux jeunes hommes de forte corpulence. Ils se tenaient épaule contre épaule et la fixaient en silence. Une puissance maléfique émanait d'eux. « Oh, Seigneur, aide-moi !» pria Joyce. Elle était saisie brusquement de panique, son panier de linge. Elle se dirigea vers la porte de devant. Les deux jeunes hommes ne bougèrent pas. Elle se précipita alors vers la porte de devant et elle a vu une limousine blanche qui s'est arrêtée devant la laverie. Deux autres hommes musclés se dirigeaient vers la porte et prirent position de part et d'autre de l'entrée à l'extérieur. « Seigneur, aide-moi à passer !» s'écria Joyce mentalement. La peur la submergea par vagues. Lorsque elle atteignit la porte d'entrée et s'engagea sur le trottoir, la porte arrière de la limousine s'ouvrit et une femme en sortit. Au premier abord, elle n'avait rien qui la fasse particulièrement remarquer. Elle portait un pantalon noir, serré, qui faisait apparaître ses formes plutôt rondelettes. Ses cheveux, presque entièrement gris, lui tombaient sur les épaules. Mais il émanait d'elle une terrible puissance démoniaque. Joyce s'arrêta net. Elle chancela, frappée par la puissance démoniaque de Dantalion, c'est-à-dire un prince des démons. Cette femme n'était autre que Sedona, c'est-à-dire l'ennemi mortel de Joyce, lorsque, en son temps, elle était encore dans le satanisme. Joyce sentit la peur pénétrer à flot en elle. Toutes sortes de souvenirs se succédaient rapidement dans ses pensées. Des scènes horribles de torture et de tourment. Elle devait lutter pour penser et même pour respirer. C'était comme si elle sombrait dans un océan de pensées qui la tourmentait. Elle rassembla toutes ses forces et toute sa volonté pour résister à cet assaut terrible, et elle fit péniblement quelques pas en avant, s'accrochant à son panier à linge et à ses clés, comme à une bouée de sauvetage. Sedona s'avança, lui barrant le chemin. « Voyons, où penses-tu donc aller comme ça ?» dit-elle d'un ton cassant. Joyce se secoua la tête comme pour tenter de s'éclaircir les idées. « Oh, je rentre à la maison !» balbutia-t-elle. « Oh non, non, tu ne rentres pas à la maison, car tu m'appartiens. » Rassemblant les derniers forces qui lui restaient, Joyce lui répondit aussi fermement qu'elle le pouvait. « Oh non, je ne partirai pas, je ne t'appartiens pas, et je te chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. » car j'appartiens maintenant à Jésus. Sedona manqua un petit temps d'hésitation, mais très bref. Elle étendit la main et saisit le bras de Joyce au niveau du coude, en le serrant cruellement. Joyce fit un bond en arrière et tenta de se dégager, mais elle n'y parvient pas à se libérer, et une vive douleur lui traversa le bras et l'enveloppa par vagues. C'était un peu, comme on peut dire, une douleur brûlante. Instantanément, les horribles pensées qui la tourmentaient furent multipliées par 100. Les images tourbillonnaient dans sa tête. Des images horribles de démons et d'autres personnes qui l'avaient autrefois torturée. Elle fit un nouveau bond en arrière, mais fut incapable de prononcer une seule parole. Sedona lâcha son bras. « Je te tiens maintenant, je te tiens à présent. » La pleine lune et dans 4 jours, et tu seras mon trophée, tu seras mon sacrifice au Seigneur Satan. » Joyce se secoua à nouveau, mais elle n'eut pas la force de parler. Sedona continua à parler, et ses paroles éclataient comme une série de coups de feu. « Je connais le moindre de mouvements, et elle entreprit de lui donner la liste précise de tout ce que Joyce avait fait au cours de la semaine précédente. « Je peux t'avoir quand je veux, » dit-elle en se vantant. Quelque chose mit les pieds de Joyce en mouvement. Elle commença à marcher sans savoir comment. Elle se sentait détachée, incapable de se contrôler. Elle cria silencieusement au Seigneur pour qu'il lui vienne en aide. Il lui était impossible de penser. Ces horribles images continuaient à se presser dans sa tête. Sedona était furieuse, mais semblait étrangement incapable d'aller plus loin. « Tu m'appartiens, » siffla-t-elle, « et je t'aurai quand je le voudrai. Je te ferai payer l'humiliation que tu m'as fait subir. Je t'aurai bientôt. » Elle remonta dans sa limousine en lui lançant ses dernières menaces. Soudain, Joyce se mit à courir. Elle traversa en courant le parking. Sa voiture était garée de l'autre extrémité du parking. Il lui sembla qu'elle était à des kilomètres, mais elle atteignit enfin sa voiture. Au moment où elle ouvrit la porte d'une main tremblante, la limousine sortit aussi en vrombissant du parking. Joyce grimpa dans sa voiture et engagea la clé de contact. Puis là, elle se sentit mal et elle remit tout au Seigneur Jésus. Combien de temps resta-t-elle ainsi, elle ne sait pas. Joyce ne le savait pas. Mais soudain, elle ouvrit les yeux et elle les cligna de surprise en voyant qu'elle était tout de même en train de s'engager dans l'allée de sa maison. Elle n'avait gardé aucun souvenir du trajet. Elle fit pénétrer la voiture dans le garage et elle réussit tant bien que mal à s'extraire du véhicule et à rentrer chez elle. Puis là, elle s'écroula en larmes sur le sol. « Oh, merci Seigneur Jésus, » dit-elle en pleurant, « merci de m'avoir ramené à la maison. » Elle ne put en dire davantage. Dantalion l'attaqua avec une fureur redoutable. Elle ressentit une odeur fulgurante dans la tête, une douleur terrible le long du bras et jusque dans l'estomac. Elle se plia en deux sous l'effet de la douleur. Les horribles images continuaient à défiler dans son esprit, des scènes bien trop affreuses pour être décrites. Démon, je vous chasse et je vous lie au nom de Jésus, murmura faiblement Joyce. L'attaque se relâcha un peu. Elle rampa en direction du téléphone. Les démons attaquèrent à nouveau. Non, au nom de Jésus, non, s'écria-t-elle. Elle saisit sa tête en pleine main. « Je vous commande d'arrêter par le Saint-Nom de Jésus, » dit-elle à nouveau. Cette fois avec un peu plus de force. Puis elle recommença à ramper vers le téléphone. « Il faut que j'appelle Rolf et Elsie à l'aide, » pensa-t-elle. Elle atteignit enfin le téléphone, mais elle était bien trop faible pour se relever. Elle chercha le combiné à tâtons sur la table de travail de la cuisine et sa main finit par trouver. Là, elle fit tomber le téléphone sur elle, puis au sol. Mais elle fit aussi tomber, hasard ou pas, certainement pas. Elle fait tomber une bouteille d'huile pour faire de l'onction d'huile qui se trouvait à côté du téléphone. « Oh, merci Seigneur !» dit-elle dans un souffle en saisissant la bouteille d'huile. Mais elle la relâcha aussitôt car les démons la frappèrent à nouveau, lui coupant le souffle. C'était comme si une énorme main griffue était en train de lui déchirer les entrailles. « L'huile, oui, prends l'huile et lie les démons qui ont été plantés dans ton bras par Sedona. » Cette pensée venait du Saint-Esprit et traversa le chaos de scènes tourmentées qui explosaient dans le cerveau de Joyce. « Oui, Seigneur, » dit-elle en sanglotant. « Aide-moi, ô Jésus, je t'en prie. » Elle se traîna en avant et saisit à nouveau la bouteille d'huile. « Arrêtez, au nom de Jésus, » ordonna-t-elle une nouvelle fois. Et elle réussit cette fois à enlever le bouchon de la bouteille et versa l'huile sur le bras que Sedona avait serré. « Aïe, aïe, aïe » cria-t-elle. Une douleur brûlante lui parcourait tout le bras. Au nom de Jésus, je lis tous les démons qui ont été mis dans mon bras par Sedona. Quittez-moi, au nom de Jésus. La douleur diminua et son esprit commença à se dégager un peu. Elle saisit le téléphone et fit le numéro. Elsie lui répondit. Rolf n'était pas là, mais Elsie se joignit à Joyce pour prier. Elles obligèrent ainsi les démons à reculer un peu, mais sans parvenir à les chasser. « Je vais appeler Rolf, » dit Elsie. Elle est partie travailler, mais je peux lui demander de l'appeler et de t'appeler ensuite. Joyce raccrocha et attendit. Prions que Dieu lui donne la force. Elle se sentait mieux après avoir prié avec Elsie. Elle pouvait enfin réfléchir à présent. Elle reprenait des forces. Elle se releva et s'assit sur le divan. Eh bien, au moins mon état s'améliore, pense-t-elle en grinçant des dents et en grimaçant un sourire. Dring, dring. Eh bien, c'était Rolf. Joyce lui décrivit brièvement ce qui s'était passé. « Dis-moi, Joyce, est-ce que Sedona t'a enfoncé un implant dans le bras ou une aiguille magique ?» demanda Rolf. Joyce n'avait pas pensé à cela. Alors elle tâta soigneusement son bras et elle y avait là, on sentait une aiguille plantée. « Oui, répondit-elle lentement. « Je la sens, et je vois maintenant par où elle est entrée. » Les démons aiment faire tout cela. Eh bien, il faut absolument l'enlever, et plus vite que ça. « Est-ce que tu as de l'huile près de toi ?» dit Rolf. « Oui, je me suis déjà fait une onction d'huile, » répondit Joyce. « C'est bien, mais il faut en faire une autre. Il faut que tu demandes au Seigneur d'empêcher cette aiguille de s'enfoncer plus loin. Je vais aussi lui demander de faire remonter cette aiguille à la surface. Oint donc d'huile ton bras et je me tiens avec toi dans la prière. » D'accord. Joyce répandit encore de l'huile sur son bras à l'endroit où se trouvait l'aiguille magique. Rolf commença à prier. Dieu mon Père céleste, c'est au nom de Jésus que nous venons devant ton trône. Je veux contrer les manœuvres de Satan et intercéder pour ma sœur Joyce, car elle t'appartient, Seigneur. Satan n'a aucun droit sur sa vie. Au nom de Jésus, je te demande d'arrêter cette aiguille maudite et de la ramener à la surface. Au nom de Jésus, je lis tous les démons associés à cette aiguille. Joyce se mit à gémir, car son bras recommençait à brûler et les démons lui déchiraient l'estomac. Puis la douleur commença tout doucement à diminuer. « Oh, je me sens mieux maintenant, » dit-elle à Rolf. je peux voir un point noir. Je pense que c'est la tête de l'aiguille. Bien. Tiens bon là où tu es, car je rentre à la maison dès que possible. Ça ira, dit Joyce. Je me sens réellement mieux à présent. Lorsque Rolf rentra chez lui, l'état de Joyce s'était suffisamment amélioré pour qu'elle puisse se rendre en voiture chez Rolf. Il l'attendait. Il était encore tourmenté dans sa mémoire, mais pas autant qu'auparavant. On pouvait très bien voir maintenant l'aiguille, juste sous la surface de la peau, et il lui était facile de l'enlever. C'était une petite aiguille en métal, longue d'un peu plus d'un centimètre, de la taille d'une grosse écharde, mais qui représentait un danger mortel. Et dès que l'aiguille fut enlevée, Joyce commanda à Dantalion, le prince des démons, et à tous les autres démons associés à l'aiguille, de la quitter immédiatement par le saint nom de Jésus. Ils ont dû obéir, et elle fut enfin libérée. Je ne suis pas certain que tout soit terminé maintenant, dit Rolf d'un air assez pensif. Oui, si c'est l'incantation à laquelle je pense, ce n'est probablement pas fini, approuva Joyce. Sedona savait comment utiliser Dantalion, parce que c'est un prince des démons qui m'a haï tout particulièrement. Je l'ai reconnu immédiatement. Il possède un pouvoir particulier pour attaquer les pensées. Or, cette aiguille ressemble aux aiguilles qui sont utilisées dans le voodoo. Et je crois savoir quelle incantation a été utilisée par Sedona. Je suis inquiète parce que je suis passé par plusieurs cérémonies rituelles qui m'ont conditionné pour cette incantation. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un les utilise, mais Sedona connaissait leur existence. Pourquoi as-tu donc accepté qu'on te fasse toutes ces choses, puisque tu connaissais les conséquences possibles? Mais c'était pour avoir beaucoup plus de puissance. Rolf soupira. Bien sûr, les serviteurs de Satan, ils feraient n'importe quoi pour avoir plus de puissance. Eh bien, je suis absolument certaine et certain que Sedona a pu prononcer cette incantation pour te tuer, commenta Rolf. Voyons, la première nuit de la pleine lune, elle ne sera que dans 4 jours. Je suppose que c'est à ce moment-là que l'incantation doit avoir son effet. Cela correspond aussi à sa menace de te sacrifier pour la prochaine pleine lune. Oui, tu as absolument raison. Cette sorte d'incantation s'étale sur 3 ou 4 jours. Il faut pour cela se procurer un grand cierge qui a la forme d'un homme ou d'une femme. Puis on prononce l'incantation qui est accompagnée d'un sacrifice de sang. Une partie de l'incantation consiste à allumer le cierge et à planter de 6 à 9 aiguilles dans le cierge à des endroits qui dépendent du résultat que l'on recherche. Toutes les aiguilles sont plantées dans le cierge sauf une, car la dernière aiguille, elle doit être plantée dans la personne contre laquelle on prononce l'incantation. C'est une incantation qui doit donner la mort. À mesure que le cierge brûle continuellement, l'aiguille est manipulée par des démons dans le corps de la personne. À mesure que le cierge fond, ces morceaux de métal se mettent à grandir dans le corps de la personne et prennent même la forme d'une croix renversée. À la première nuit de la pleine lune, on termine l'incantation et la croix renversée est complètement formée dans le corps de la personne. Lorsque le cierge finit de se consumer, la personne meurt. C'est une très ancienne et très puissante malédiction vaudou. Eh bien, nous avons réussi à t'enlever l'aiguille principale, mais je pense aux autres morceaux, dit Rolf. Crois-tu que les démons ont eu le temps de placer leur semence magique en toi? Je ne sais pas. Mais cela ne m'étonnerait pas, répondit Joyce lentement. Que pouvons-nous y faire? Ce que nous faisons toujours, dit Rolf, demandons à Dieu le Père de s'occuper de cela. Nous allons oindre tout ton bras et nous allons demander à Dieu notre Père de faire remonter à la surface par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, tous les autres morceaux de métal avant la nuit fatale. Alors elles commencèrent à oignir tout le bras de Joyce et prièrent le Seigneur. Et effectivement, 3 jours plus tard, lors de la première nuit de la pleine lune, une croix renversée commença à se former sur le bras de Joyce. Elle était rouge feu et elle faisait saillie comme une sorte de cloque. 3 autres morceaux de métal furent extraits de son bras à l'endroit même où s'était formée la croix renversée. Lorsque ces fils de fer eurent été enlevés, Rolf fit une nouvelle onction d'huile sur le bras. Les traces rouges disparurent complètement et la malédiction fut complètement brisée. Joyce est aujourd'hui vivante et en parfaite santé. Seule la puissance de Jésus-Christ peut briser une malédiction aussi puissante. Après avoir prié et oint le bras de Joyce, elles restèrent tranquillement assises pendant quelques minutes. Puis Rolf prit à nouveau la parole. « Écoute bien, Joyce, » dit-il sérieusement. « Il faut maintenant tirer une leçon de tout cela. car tu es passé trop près de la mort. Oh oui, je sais, dit Joyce de tout son cœur. Ce n'est que grâce à l'intervention du Seigneur que je suis encore en vie. Dieu le Père a une fois de plus honoré l'alliance qu'il avait conclue avec toi. Il m'a sauvé la vie. Seul le Seigneur a pu empêcher Sedona de m'enlever lorsque je l'ai rencontrée, car elle semblait étrangement incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de me menacer. « Oh oui, je sais, » dit Rolf en hochant la tête. « Mais écoute-moi bien, Joyce. Elle n'aurait même pas dû te toucher. Comment aurais-je pu l'en empêcher ?» demanda Joyce, car j'étais complètement cerné par ces hommes. Et bien, tu aurais dû commencer à combattre immédiatement, car rappelle-toi ce que je t'ai dit à propos de l'armure de Dieu. Cette armure est réelle. Elle est réelle sur le plan spirituel, mais elle nous protège aussi sur le plan physique. Oui, mais je ne comprends pas du tout comment j'aurais pu utiliser cette armure. J'ai pourtant résisté à Sedona au nom de Jésus. Eh bien, ce n'était pas tout à fait suffisant, car tu as pris une attitude purement défensive. Tu t'es contenté de rester planté à ta place et, parce que tu n'as pas combattu, tu t'es en fait soumise à Sedona. Et c'est pour cela qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait. Tu as laissé la crainte te submerger. Tu aurais dû entreprendre une action offensive et te montrer agressive dès le début. Si tu l'avais fait, elle n'aurait même pas pu te toucher de sa main. Elle n'aurait jamais dû pouvoir te planter cette aiguille magique dans ton bras. Joyce se frotta le front d'un air fatigué. « Oh, je regrette, mais je ne comprends pas tout. » Rolf se leva, l'entoura de ses bras et la serra contre lui. « C'est bon. Tu es trop fatigué maintenant pour en parler ce soir. Il est du reste tard et il faut que tu ailles travailler demain matin. Va te coucher et nous en reparlerons demain. Demain, quand tu te seras un peu reposé. » Pendant ce temps, nous allons prier et nous allons demander à Dieu notre Père Céleste de t'aider à comprendre. Reste ici cette nuit et tu seras en parfaite sécurité. Épuisé, Joyce acquiesça et elle alla immédiatement se coucher. Le lendemain, Joyce retourna chez Rolf après le travail, vers le milieu de la matinée. Elle était toute excitée. « Écoute, Rolf, la nuit dernière, le Seigneur m'a donné un rêve. Il m'a montré l'armure et comment je pouvais m'en servir. » J'ai finalement compris. Il m'a même donné aujourd'hui une occasion de m'en servir. Formidable ! Raconte-moi ça. Eh bien, je suis allé travailler ce matin, mais il y avait beaucoup trop de personnel pour le travail à faire, alors je me suis porté volontaire pour prendre une journée de congé. En descendant le hall pour me rendre au vestiaire des infirmières pour me changer, voilà que j'ai vu un homme portant l'uniforme du personnel d'entretien qui s'est dirigé vers moi. Il n'y avait personne dans le hall et il a accéléré le pas lorsqu'il m'a vu. J'ai immédiatement reconnu que c'était l'un des hommes qui était hier avec Sedona. Il avait dans la main quelque chose qui ressemblait vraiment à un couteau. Je n'étais pas du tout disposé à revivre ce que j'ai vécu hier. « Alors que as-tu fait ?» demanda Rolf. Eh bien, lorsque il s'est approché de moi, j'ai dit « Non, 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 stop ! Stop au nom de Jésus ! Tu ne me toucheras pas !» Dieu le Père m'avait montré comment le bouclier de la foi s'appuyait sur mon bras. Alors j'ai levé mon avant-bras devant moi et je me suis avancé directement vers lui. Il a eu l'air complètement effrayé. Je ne voyais pas le bouclier, mais je suis certaine que lui, il le voyait. Je l'ai littéralement repoussé contre le mur du hall, sans même le toucher physiquement. Et il est resté collé contre le mur, la bouche pendante. Et j'ai lié tous ces démons au nom de Jésus et je lui ai répété qu'il ne pouvait pas me toucher. Il est resté là, le dos au mur. Puis je me suis retourné et je me suis précipité dans le vestiaire. Lorsque j'en suis sorti, l'homme était parti. Je ne l'ai plus revu. Merveilleux ! S'exclama Rolf. Mais c'est exactement ce que j'ai essayé de t'expliquer hier soir. Même si nous ne voyons pas l'armure de Dieu, c'est réellement une armure sur le plan spirituel. Nous pouvons donc l'utiliser sur le plan physique si le Saint-Esprit nous conduit à le faire. Oui, c'est exactement ce que Dieu le Père m'a montré dans mon rêve. Il m'a montré comment le casque du salut vient se poser sur notre tête pour la protéger. Il me dit que lorsque ces démons de crainte m'ont attaqué, j'aurais dû aussitôt leur résister au nom de Jésus, leur commander de s'enfuir et refuser de les accepter parce que j'étais protégé par le casque. Ils ont pu m'atteindre parce que j'avais accepté l'attaque au lieu de les repousser. Ensuite, il m'a montré la cuirasse de la justice et comment elle protégeait la poitrine. La ceinture de la vérité nous entoure la taille et c'est la seule pièce de l'armure qui nous entoure le dos. Tu sais, cela ressemble à l'armure portée par les soldats romains. Le bouclier est un grand bouclier, presque aussi grand que nous, et l'épée est un pur rayon de lumière blanche avec une poignée en or. Rolf approuva de la tête. tu ne m'avais jamais dit que tu avais effectivement vu cette épée, dit Joyce. Mais quand j'y pense, je suppose qu'il y a beaucoup de choses dont tu ne m'as pas encore parlé. Rolf se mit à rire. Oui, en effet, tu as le sens de tout cela. Je me rappelle très bien comment, dans un petit nombre d'occasions, j'ai dû utiliser l'armure de Dieu dans notre monde physique. J'ai d'abord reconnu la réalité de cette armure lorsque Dieu a permis à certains démons de se manifester physiquement pour tenter de me tuer. Et là, le Saint-Esprit m'a montré que nous nous revêtons de cette armure par la foi et que nous pouvons l'utiliser lorsque il nous conduit à le faire. Dis-moi, à quelle occasion tu l'as utilisé, demanda Joyce. Eh bien, une fois, c'était il y a quelques années, j'exerçais encore la médecine. J'étais retourné visiter un patient à l'hôpital au milieu de la nuit. Le parking réservé aux médecins était à une courte distance de l'hôpital. Et l'hôpital ne se trouvait pas dans un quartier très recommandable. Il fallait donc que je retourne seul à pied à ma voiture cette nuit-là. Et il était environ 3 heures du matin. Je ne me sentais pas très à l'aise. Tout était beaucoup trop calme. Et c'était juste 2 ou 3 jours avant la fameuse pleine lune. Les satanistes commençaient à être vraiment très en colère contre moi parce que j'attirais beaucoup trop de monde à Jésus-Christ. Quand je suis arrivé à ma voiture, je me suis arrêté pour regarder autour de moi parce qu'il me semblait qu'il y avait quelqu'un sur le parking, mais je ne voyais personne. J'ai essayé d'introduire ma clé dans la serrure, mais elle n'arrivait pas à pénétrer. Il y avait quelque chose qui la bloquait. Alors j'ai commandé à tous les démons qui pouvaient bloquer ma serrure de partir immédiatement, mais sans aucun succès. Alors j'ai entendu un bruit et j'ai fait volte-face. 4 grands gaillards, costauds, se dirigeaient vers moi d'un air méchant. Il émanait d'eux comme une radiation démoniaque. J'étais absolument certain qu'ils voulaient me servir comme leur plat de résistance lors de leur fameuse prochaine sacrifice à Satan, à la pleine lune évidemment. Je me demande comment je n'ai pas été cloué sur place par une crise cardiaque, tellement que j'ai eu peur. Je suis sûr qu'ils devaient me bombarder de tous les démons de peur qu'ils avaient. Qu'est-ce que tu as fait alors ? Demanda Joyce avec impatience. Eh bien, je leur ai ordonné de s'arrêter et j'ai lié leurs démons par le saint nom de Jésus, mais cela n'a pas semblé les troubler ni les tourmenter. Ils ont tout simplement continué à avancer vers moi. J'ai continué à leur résister, mais ils ont commencé à se moquer de moi. Leur chef me dit d'un ton moqueur, « Mais tu te trompes drôlement. si tu penses que ton petit Jésus peut te protéger de nous, ils étaient alors à un peu plus de 3 mètres de moi. Soudain, le Saint-Esprit s'adressa à moi. Il me dit, « N'oublie pas l'armure. » Alors par la foi, oui, par la foi, j'ai simplement demandé au Seigneur de placer son épée dans ma main et d'ouvrir les yeux de ces gens, de ces affreux, pour qu'ils puissent voir l'épée. Puis j'ai pointé ma main en avant comme si je tenais réellement une épée. Les hommes se sont arrêtés immédiatement, très surpris. Ils se protégèrent les yeux comme s'ils avaient été éblouis par une forte lumière. J'avais ravi, en effet, quelque chose qui leur échappe et j'étais heureux. Et je leur ai dit, « D'accord, si vous voulez vous battre, eh bien venez, je vais vous combattre avec ça. » Là, ils restèrent immobiles pendant 1 minute, puis leur chef prit la parole. « Quoi ? Je parie que tu ne sais même pas te servir de ce machin. Tu veux le parier vraiment ? » dis-je. « Alors approche-toi, viens et je vais te le prouver. Ce n'est pas par ma propre puissance que je vais te combattre, pas du tout, mais avec la puissance de mon maître Jésus-Christ. Toi et tes démons, vous n'êtes rien à côté de lui. » Là, ils semblèrent très indécis. Je poussai mon avantage et je me suis avancé de quelques pas en leur direction en leur résistant à nouveau au nom de Jésus. Ils firent un pas en arrière, alors j'ai continué courageusement à marcher vers eux, la main toujours pointée en avant, comme si je tenais vraiment cette arme. Cette épée flamboyante dans ma main. Heureusement qu'ils n'ont pas vu comme mes genoux tremblaient. Et j'ai appris très tôt que je ne devais surtout jamais montrer que j'avais peur ou que j'avais mal. Ils traînaient les pieds, visiblement très mal à l'aise. Soudain, ils se sont tournés de l'autre côté et ils ont pris les talons à leur cou. Ils se sont enfuis en courant. Je me suis précipité vers ma voiture et cette fois la clé s'est introduite sans aucun problème dans la serrure. Tu peux dire que j'ai filé à toute vitesse pour sortir de là. « As-tu vu l'épée ?» demanda Joyce. « Non, non, non. Je ne l'ai pas vue. Il fallait que je croie par la foi, oui, par la foi, que je l'avais bien, bel et bien en main, parce que le Saint-Esprit m'avait dit d'utiliser l'armure. Mais eux, manifestement, ils l'ont vue, car de toute façon, les satanistes peuvent voir dans le monde spirituel la plupart du temps, mais les démons filtrent ce qu'ils voient. Et j'avais demandé à mon Père Céleste de leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient l'épée. Autrement, je crains que les démons ne les aient empêchés de la voir. J'aurais bien aimé l'avoir aussi, bien sûr, mais je ne l'ai pas vu. Je suppose que si je l'avais vu, je crois que je n'aurais pas eu besoin de la foi, car nous devons toujours essayer de marcher par la foi. Comme je vous parle maintenant depuis un bon moment, normalement, ma voix ne tient pas le coup jusqu'à la fin, mais j'ai prié le Seigneur que ma voix puisse être assez claire jusqu'au bout de cette étude. Il n'y a que le miracle de Dieu, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui peut faire cela. Oui, tout cela est quelquefois difficile. Bon, mais plutôt que de parler encore toujours de moi, laisse-moi te raconter, dit Rolf, laissez-moi de vous raconter une expérience faite récemment par quelqu'un qui est vraiment aussi sorti du satanisme. Te rappelles-tu Annie ? Je pense que tu l'as rencontrée une fois quand elle faisait encore partie de ces satanistes. Oui, je me souviens maintenant d'elle. Eh bien, elle est restée chez nous environ 5 mois. Elle avait été horriblement maltraitée par les satanistes. Sa mère avait essayé de s'enfuir avec elle quand elle avait environ 7 ans. Elles ont été rattrapées et ramenées. Annie fut ensuite forcée d'assister à la punition et à la mise à mort de sa mère au cours d'un sacrifice. Et elle, qui était encore un enfant, elle fut utilisée comme mère porteuse de bébés à sacrifier par la suite, et dans toutes sortes de pornographie, à la fois comme enfant et parfois comme adulte. Elle a essayé une fois de s'enfuir, environ 3 ans avant que nous nous rencontrions. Et 2 grandes brutes de la secte l'ont rattrapée, l'ont ramenée et ont abusé d'elle d'une manière horrible, y compris la sodomie en guise de punition. Cette fois, elle accepta cependant Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et cela fait toute la différence. Tu peux le dire, dit Joyce avec émotion. Il n'y a aucun moyen possible de sortir du satanisme et de rester vivant. Seule la puissance de Jésus peut vous permettre de rester libre et en vie. 1 mois environ après la délivrance complète d'Annie, elle dut un jour se rendre dans un centre commercial et je n'ai pas pu l'accompagner. Il m'est impossible de protéger tout le monde tout le temps. Il y a des occasions où ma foi personnelle est réellement mise à l'épreuve. Mais je sais que ces personnes doivent aussi apprendre à marcher toutes seules avec le Seigneur. J'ai laissé partir Annie, mais j'étais très inquiète. Esther est partie avec elle, et plus tard dans la soirée, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a demandé de prier pour Annie parce qu'elle était en difficulté. J'avais du monde chez moi à la maison, je leur ai donc demandé de se joindre à moi, et nous avons tous prié un moment pour prier pour la sécurité d'Annie. Environ une heure plus tard, Annie et Esther sont revenues à la maison. Annie pouvait à peine sortir de la voiture. Voici ce qui lui était arrivé. Et c'est Esther qui me l'a raconté. Le matin même du jour où Annie est sortie pour la première fois sans que je l'accompagne, je lui ai parlé de l'armure de Dieu telle qu'elle nous est décrite dans Éphésiens chapitre 6. Et je lui ai dit que c'était une armure réelle. Et je me rappelle lui avoir dit que parfois, si l'on se trouvait dans de très sérieuses difficultés, il était utile de faire un geste de haut en bas avec notre main, je répète, du haut en bas, devant soi, en disant quelque chose comme cela. Je sais que j'ai devant moi le bouclier de ma foi en Jésus-Christ. Bien sûr, ce n'est pas une obligation de faire ce geste que je viens de dire, mais cela peut nous aider à rester dans la foi dans une situation difficile. Je ne me doutais pas que Annie aurait à se servir de ce bouclier un peu plus tard, au cours de cette même journée. Alors que Annie et Esther marchaient dans le centre commercial, Annie s'arrêta brusquement, confrontée à trois hommes de très haute stature. Annie est un petit bout de femme et elle ne pèse que 48 kilos environ. Ces trois hommes faisaient tous bien plus de 1,90 m. Deux d'entre eux étaient ces deux mêmes satanistes qu'il avait attrapés 3 ans auparavant, lorsqu'elle avait tenté de s'enfuir. Et c'était ceux-là, oui ceux-là, qui avaient abusé d'elle d'une manière tellement cruelle pour la punir d'avoir essayé de s'enfuir de son groupe. Le centre commercial était très animé, comme d'habitude, et des centaines de personnes passaient à côté d'eux sans même faire attention à la scène incroyable qui se déroulait sous leurs yeux. Esther recula de quelques pas, saisie de crainte et ne sachant exactement que faire. Annie se tenait debout en silence, les yeux levés vers ces trois hommes. Leur chef lui adressa alors la parole d'une voix menaçante. « Tu viens maintenant avec nous. » Annie tremblait de peur, mais elle est parvenue à parler. « Non, 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 je ne viendrai pas avec vous. » Cette fois, les choses sont différentes, car maintenant, je sers et j'appartiens à Jésus-Christ. Je ne sers plus Satan. Et alors, reprit l'homme d'un ton railleur, tu vas venir avec nous. Tu ne t'en tireras pas si facilement cette fois. Annie avait tellement peur qu'elle ne savait que faire. Soudain, le Saint-Esprit lui rappela ce que je lui avais dit à propos du bouclier de la foi le matin même. Et elle prit une respiration profonde et fit descendre sa main devant elle de haut en bas en disant « Non, je ne peux pas et tu ne peux pas me prendre. Car tu vois, j'ai maintenant un bouclier devant moi. Ça, c'est le bouclier de la puissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Les trois hommes se mirent à rire. Quel bouclier ? Je ne vois pas de bouclier, dit le chef. Mais je te dis que si tu veux la bagarre, tu vas la voir. Ce sera ma puissance contre ta puissance. Même lorsque Annie était dans le satanisme, elle n'était pas de taille à lutter contre cet homme. Elle n'avait jamais eu des démons aussi puissants que les siens. Elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine parler, mais elle répondit, « D'accord, mais je n'ai plus de pouvoir. J'ai plus de pouvoir maintenant, beaucoup plus que vous. Alors ce sera mon Dieu contre ton Dieu. » Les hommes se mirent à nouveau à rire et à railler. Annie resta à sa place. Les hommes commencèrent à lui envoyer des démons pour l'attaquer et elle fut submergée par d'horribles souvenirs. Elle dit ensuite que le seul verset de l'Écriture sainte qu'elle pouvait se rappeler, c'était Saint-Luc, chapitre 10, verset 19, où il est dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Saint-Luc, chapitre 10, verset 19. La bataille fit rage dans le domaine spirituel et Annie continuait à rester debout. Les démons la faisaient horriblement souffrir. Ils la tourmentaient dans ses pensées et dans son corps. Elle chancela sous la violence de l'assaut, mais elle continua à tenir ferme. Les hommes commencèrent à avoir l'air assez surpris, puis ils parurent un instant indécis. Après quelques minutes, ils firent un pas en arrière, puis un autre, et Annie continua à tenir ferme. Soudain, les trois hommes tournèrent les talons et s'enfuirent en courant du centre commercial. « Gloire à Dieu !» s'exclama Joyce. « Amen ! Quelle victoire ce fut là !» approuva Rolf. Annie était toute meurtrie, mais elle avait tenu bon. Le bouclier de sa foi en Jésus-Christ l'avait protégée. Notre Seigneur avait été fidèle comme toujours. Je connais un autre incident qui est arrivé tout récemment à Georges, nous dit Rolf. Georges est un jeune homme qui a récemment abandonné une position très élevée dans la sorcellerie. Après sa délivrance, j'étais en train de lui parler de la réalité de l'armure de Dieu. Je lui ai dit que je ne serais pas surpris si les démons l'attaquaient aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Or, quelques jours après, il me raconta ce qui lui était arrivé. Georges était en train de dormir à l'arrière d'une camionnette et là il fut réveillé en sursaut au milieu de la nuit. Lorsque les portières arrière de sa camionnette s'ouvrirent avec une brutalité inouïe, il fut comme aspiré hors du véhicule et projeté au sol à plus de 5 mètres de là. Alors qu'il se remettait péniblement sur pied, il se trouva en présence de l'un des démons qui avait été l'un de ses esprits guides. Le démon se manifestait sous une forme physique et il dit à Georges qu'il allait le tuer maintenant. Georges me dit que sans savoir comment, il s'était accroché à son oreiller lorsqu'il avait été éjecté de la camionnette. Et il était tellement effrayé qu'il pouvait à peine réfléchir à ce qu'il allait dire. Alors, il résista au démon au nom de Jésus, mais le démon continuait à avancer en sa direction. Il se rappela alors ce que je lui avais dit au sujet de l'armure de Dieu. Georges me dit qu'il n'avait pas une foi suffisante pour se tenir devant ce démon sans rien de concret pour se protéger. Alors il s'est servi de son oreiller et il a dit « Tu vois ceci ? Ça, c'est le bouclier du Seigneur. Tu ne peux pas me toucher parce que je suis protégé par Jésus. » Le démon se mit à rire et il dit « Tu vois que c'est ce petit oreiller-là qui va te protéger de moi. Je vais te faire voir un peu ce que c'est. Vraiment, tu te moques de moi. » Et puis le démon étendit le bras et commença à lacérer méchamment l'oreiller de ses griffes. L'oreiller fut réduit en charpie, mais le démon fut incapable d'aller plus loin. Il était évident qu'il avait un bouclier devant lui. Même si Georges ne pouvait pas voir ce bouclier, eh bien le démon pouvait le voir. Mais il lui fut impossible de traverser le bouclier invisible, visible pour le démon. Après quelques minutes, il abandonna la partie et disparut. Georges vient me voir le lendemain et me montre à l'oreiller tout lacéré. Il me dit que au cours de toutes ces années de sataniste, il n'aurait jamais tenté de repousser un démon avec un simple oreiller. Mais gloire au Seigneur, car derrière cet oreiller, il y avait un bouclier très réel. C'était le précieux bouclier de sa foi en son nouveau maître, en Jésus-Christ. Si seulement les chrétiens comprenaient la réalité du monde spirituel et de l'armure de Dieu, alors ils remporteraient davantage de victoires contre le royaume de Satan. Joyce approuva d'un air sérieux. Oui, et nous entrons rapidement dans une époque maintenant où nous verrons de plus en plus des confrontations directes entre les satanistes et les enfants de Dieu. Mes chers amis à l'écoute, je prie que partout les chrétiens commencent à se réveiller et à comprendre quelles armes merveilleuses ont été préparées pour nous par le Seigneur. Nous ne sommes pas obligés de craindre Satan et ses serviteurs. Cependant, nous ne devons jamais les sous-estimer parce qu'ils sont puissants et que leur puissance est réelle. Mais gloire à Dieu, ils n'ont absolument aucune puissance. en face de l'extraordinaire puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, aucun sataniste peut résister. Amen. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Et vous comprendrez que je dis merci Seigneur d'avoir permis que je puisse terminer avec la voix audible. Seigneur, nous venons d'entendre ta sainte parole, mais l'avons-nous reçue dans nos cœurs? Nous nous prosternons devant toi, mais nos âmes sont-elles vraiment recueillies et pénétrées d'un saint respect? Nous t'appelons notre Dieu et notre Père, mais avons-nous pour toi des sentiments réels d'adoration et d'amour filial? Nous portons le nom de chrétiens, mais sentons-nous combien nous sommes loin encore d'être chrétiens de cœur et véritablement convertis? Chaque jour, nous faisons un pas de plus vers la mort et vers le jugement éternel. Mais sommes-nous prêts à paraître devant toi? Ô Dieu puissant, tout puissant, puissions-nous répondre à ces questions dans le fond de nos âmes avec une entière sincérité et ne point nous abuser nous-mêmes? Puissions-nous venir aux pieds de notre adorable Sauveur, chercher et trouver le pardon de nos péchés, l'assurance de notre justification, la paix et la joie éternelle? Aide-nous, Seigneur, par l'assistance de ton Saint-Esprit, à sauver nos âmes par la foi en ton Fils bien-aimé. Aide-nous aussi à remplir notre tâche ici-bas, pendant cette journée. Bénis nos familles et pitié des malades, des affligés. Soutiens tous ceux qui souffrent et que ton saint nom soit glorifié ici-bas et dans l'éternité. Amen. Amen. Et chers amis, qu'il fait bon d'aimer le Seigneur, qu'il fait bon de le servir. Je vous demande, faites tout ce que vous pouvez, même si vous n'avez pas le temps matériel, le soir, avant de vous endormir, priez. Priez pour une âme autour de vous que vous connaissez, peut-être pour plusieurs, pour qu'ils puissent être atteints par le Saint-Esprit, pour qu'ils puissent être sauvés. Faites cela, je vous en prie. Prions les uns pour les autres et soyez bénis. Dieu vous aime et je vous aime de tout mon cœur. Oui, et maintenant, je vous embrasse avec tout mon amour et soyez bénis. À demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir. Auf Wiedersehen, arrivederci, vaya con Dios.